1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Are we on the air?
Oh, salut les PD!
SLP, salut les PD, troisième émission de juin et on a déjà entendu la voix de Anne-Yvonne Le Dain.
Bonjour, me revoilà.
Et voilà, qu'on reçoit pour la troisième fois et qui bientôt va prendre ma place en tant qu'animatrice de SLP.
Bah oui, t'oses pas lui couper la parole, ça y est.
Oui, mais je l'écoute.
Non, mais faut m'arrêter, n'hésitez pas. Hein.
Je l'écoute. Donc, troisième émission, salut Ghislain, salut Ariane déjà, puisque.
Salut,
bonjour.
Philippe.
On va faire les choses quand même. On n'a pas beaucoup de conventions à SLP, mais on se dit quand même bonjour.
Bonjour.
Troisième émission donc, le corps est politique, le sexe est politique et je propose qu'on commence tout de suite par une lecture, si vous voulez bien, Anne-Yvonne, que Ariane va nous faire. Est-ce que tu présentes ta lecture tout de suite ou tu commences direct dans le vif du sujet sans forcément nous dire de quoi il s'agit?
Je vais lire et j'expliquerai ensuite si besoin, mais je pense que ça va faire parler tout de même.
On t'écoute.
Comme méthode contraceptive, le féminisme aurait pu décréter obligatoire la masturbation technique, promulguer la grève sexuelle des femmes hétérosexuelles et fertiles, le lesbianisme de masse, la ligature des trompes obligatoires dès l'adolescence, l'avortement libre et gratuit, voire l'infanticide si nécessaire. Un scénario encore plus prometteur, il était possible, d'un point de vue biotechnologique, d'exiger l'administration à toutes les femmes en âge de tomber enceinte une microdose mensuelle de testostérone, à la fois comme contraceptif et comme méthode de régulation politique du genre. Cette mesure aurait terminé une fois pour toutes avec la différence sexuelle et l'hégémonie hétérosexuelle. Cela ne signifie pas que les biofans testostéronés auraient cessé de baiser avec des biohommes, mais cet acte n'aurait pas pu continuer d'être interprété comme purement hétérosexuel. Il n'aurait eu aucune fin reproductrice. En outre, il n'aurait plus été question de la rencontre entre deux personnes de sexe opposé, mais plutôt de sexe gay avec possibilité de pénétration vaginale. Le féminisme de l'après-guerre aurait aussi pu s'intéresser à la gestion du corps des biohommes et déclarer d'intérêt national la castration, l'homosexualité, l'utilisation obligatoire du préservatif, l'obturation du canal séminal, l'administration généralisée d'une androcure qui diminue la production de testostérone chez les biohommes, etc. Oui, il y avait d'autres possibilités, mais le féminisme libéral a conclu un pacte avec le système pharmaco-pornographique. Wow, j'ai réussi à dire le mot.
Alors, tu nous dis de quoi c'est extrait quand même?
Alors, c'est la page 182 de Testo Junkie de Béatrice Preciado, donc ouvrage qui a déjà été lu pour d'autres petits extraits dans ce studio. Et il s'agit donc d'ouvrage qui est à la fois un essai et un récit. Donc il y a un essai philosophique qui parle donc de cette société pharmaco-pornographique et de cette valeur de base dans cette société qui est la potentia gaudendi. Donc c'est la possibilité de jouir, c'est la jouissance qui doit être tout le temps disponible. Et c'est une vision sur la société capitaliste avec un regard qui montre comme fer de lance de la société capitaliste le produit à caractère sexuel, en montrant donc que les molécules chimiques les plus vendues sont liées soit à la pilule contraceptive, soit maintenant au Viagra, et que les produits, pareil, les plus vendus, les plus échangés, sinon c'est du matériel pornographique.
Ça vous parle, Anne-Yvonne, comme analyse de la société ?
L'analyse que vient d'en faire Ariane, oui.
Donc c'est dans ce livre, ça parle de ça, et là j'ai lu un tout petit extrait, parce que c'est un pavé, hein.
C'est vrai que ce qui est le plus vendu sur le plan pharmaceutique, c'est effectivement le Viagra et la pilule. Mais l'accès à la pilule aujourd'hui, d'abord c'est cher. Pour les jeunes filles mineures, pour l'instant on en reste encore au fait soit sur la carte vitale de la famille, auquel cas la famille sait que la jeune fille a demandé une contraception et donc une intrusion de la famille dans la sexualité de la jeune fille mineure. Donc ça, c'est une question politique. Mmh. Et moi, je suis favorable au fait que la contraception puisse être délivrée directement à la jeune fille et notamment de manière plus systématique, plus forte, avec une publicité qui soit faite dans les établissements scolaires. Ce que a été fait par la gauche sous le gouvernement Jospin et que les infirmières scolaires gèrent. Elles peuvent le faire, mais encore faut-il que les jeunes filles osent aller en parler.
Encore faut-il qu'il y ait une infirmière en permanence.
Encore faut-il qu'il y ait une infirmière et encore faut-il que les jeunes filles puissent en parler. Et encore faut-il donc que l'éducation sexuelle à l'école redevienne une priorité nationale.
Ce qui n'est plus le cas quand même.
Ce qui n'est pas plus que le cas. C'est effrayant. Mmh. Ça a disparu. La sexualité. Moi, j'ai un garçon, mon dernier garçon, j'en ai trois. Hein. Je suis furieusement hétérosexuelle, je tiens quand même dans cette émission à le rappeler.
Furieusement.
Rien que ça.
Et j'ai trois garçons, j'ai pas de filles. Et après, on pourrait faire une analyse psychanalytique. Ma sœur a trois filles. Bon, voilà. Donc, mais c'est un autre débat. Mais je trouve qu'aujourd'hui, il faut remettre la sexualité à l'école et autrement que par les deux magnifiques posters que présente le professeur d'éducation sexuelle, non, le professeur de sciences naturelles, en classe de quatrième. Uh-huh. Et en fait, aujourd'hui, que font les jeunes et les enfants? L'éducation sexuelle se fait par l'accès à la pornographie libre sur Internet. Or, est-ce que la sexualité, c'est la pornographie? Non. Et est-ce que la pornographie est une sexualité? Oui, mais c'est pas la même chose. Ce ne sont pas des assertions bijectives. Mmh. Et donc, il faut remettre de la sexualité, de l'éducation sexuelle à l'école, et pas seulement en quatrième. Il faut démarrer très tôt, il faut démarrer à l'école, que dans le primaire,
mais
on en parle.
Mais ça réclame un saut culturel énorme, puisque ça veut dire qu'il faudrait obtenir des parents qu'ils retrouvent la confiance dans l'institution scolaire pour transmettre ce genre de contenu.
Mais ils ne l'ont jamais perdu. Ils ne l'ont jamais perdu, puisque c'est difficile. C'est de fait. Moi, je suis mère de trois enfants, hein, de trois garçons. Je vis avec le même homme en concubinage notoire depuis 30 ans.
Furieusement.
Furieusement, oui, je vous remercie de l'avoir dit. Et je sais que c'est difficile de parler à un enfant de sexualité. Qui va en parler? La mère, le père, le couple? Qu'est-ce qu'on fait? On le convoque un soir devant le feu de cheminée. On lui dit, voilà mon garçon, maintenant on va parler de sexualité, tu as 12 ans. C'est compliqué. C'est pas un truc facile. Faut quand même le dire que c'est pas facile. Hein, la sexualité est une intimité. L'irruption de la famille, des parents, dans la sexualité d'un autre être humain, qui est l'enfant, qui a son individualité propre, il faut aussi accepter ça. Ça n'est pas à la famille de dicter sa sexualité à l'enfant.
Alors, et moi, donc, je suis complètement d'accord, mais
donc l'école doit faire son boulot.
La semaine dernière, on a complètement dit, voilà, on n'en a même pas parlé, que le personnel est politique. On n'a même pas dit qu'on était d'accord, on est partis ensemble sur ce thème, il n'y a eu aucun souci. Mais il y a énormément de gens qui ne sont pas de cet avis. Et justement sur cette question-là, y compris peut-être ceux qui auraient le plus de difficultés à en parler eux-mêmes à leurs enfants, n'ont aucune envie que quelqu'un d'autre s'en charge non plus.
Je ne suis pas sûre qu'ils n'en aient pas envie. Je pense qu'il est de bon ton de le dire.
On l'entend aussi par exemple, revenons sur la polémique qu'il y a eu l'été dernier quand il y a eu l'introduction dans certains manuels scolaires de la question des études de genre et donc de la possibilité que le genre soit construit culturellement et qu'il ne soit pas lié au sexe de naissance.
Je m'en souviens très bien, je ne suis pas forcément d'accord et avec ce que vous venez de dire et avec qui est une assertion et une affirmation. Et je ne suis pas sûre que la sexualité ne soit pas liée au genre. Je pense que c'est une affirmation.
J'ai pas dit ça, mais c'est pas grave. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que sur ces questions-là, d'accord, ce sont des questions compliquées, mais il y a toute une partie de la population qui a cette frilosité et qui refuse qu'un discours qui tendrait vers une autre façon d'envisager donc les rapports au genre, l'égalité des sexes et ce qu'on voudra. Il y a des gens qui ne veulent pas déléguer ça à l'école parce qu'ils déjà ils sont en désaccord. Et puis pour eux c'est une affaire d'éducation qui doit rester intrafamiliale. Et moi je suis absolument attristée hein, que l'école ne puisse pas se saisir sans complexe de ces questions-là et qu'on puisse s'exposer voilà, à des difficultés par rapport à certaines associations de parents d'élèves ou à certains bancs de députés. Moi, ça me... Voilà. Mais malheureusement, la situation actuelle, j'ai l'impression qu'elle serait conflictuelle. Quoi. Si on proposait Bon, je ne sais pas ce qui va se passer pendant les prochaines législatives, etc., puisqu'on a, on a vu des miracles, on va dire, au Sénat. Donc voilà. Bien sûr, il pourrait y avoir... Mais voilà, pour... donc je reviens à ce que je disais à l'origine, il faudrait, par rapport à la situation actuelle, un saut culturel que je jugerais salutaire, hein, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est... pour moi, il y a un énorme pas à faire, quoi.
Je ne pense pas que ce soit un saut culturel, je pense que c'est un saut politique. Sous Jospin,
la poule ou l'œuf, hein.
Ces colonnes royales avaient pris des décisions. Les textes d'application n'ont jamais été, ne sont jamais sortis. Et le fait, il est inscrit dans la loi qu'il y a un certain nombre d'heures qui doivent être consacrées dans les établissements scolaires à la, à la question sexuelle, à la question de la sexualité, et ça n'est pas assumé par les établissements scolaires, faute de moyens et faute, de, et faute d'application de fait de la loi. Donc on n'en parle plus.
C'est uniquement un problème de moyens, à votre avis ?
C'est beaucoup un problème de moyens, parce que la sexualité n'est pas qu'une question d'enseignement, c'est aussi une question d'éducation. Et donc il faut surtout rentrer dans, sur le sexe par une approche joyeuse. Et heureuse. Et ça, c'est quand même essentiel. Or, quand on rentre par une doctrine éducative, d'éducation, c'est plus tellement joyeux. Donc, il faudrait donner, il faut donner, redonner des moyens à l'école pour refaire de la sexualité un espace de dialogue et de conversation. Dialoguer.
Enfin, refaire ou faire, hein, carrément.
Ou faire. Mais moi, j'ai connu des époques où, c'est, où c'était plus. Où il y avait, par exemple, en quatrième, en troisième, voire en sixième, il y avait des jeux de théâtre qui étaient faits autour de la question sexuelle.
Oui.
Bien sûr, ça s'est fait, ça a été arrêté. Et par rapport à ce que vous disiez sur le fait que la loi soit appliquée et qu'il y a des résistances, bien sûr qu'il y a des résistances, mais l'école publique, laïque et républicaine, Jules Ferry, c'est plus que des résistances. Il a fallu une loi dure pour l'imposer. Et Dieu sait si Jules Ferry a été contesté. Donc ça n'a pas été simple de faire l'école laïque et républicaine. Hein. Donc publique et républicaine, ça a pas été, c'est une décision politique. Et donc de dire que la sexualité est une affaire de la sociétale et pas sociale, et qu'elle ne se restreint pas à la famille, c'est une décision politique. Mmh. Et je suis ravie que le gouvernement actuel, François Hollande, ait remis d'abord un ministère des droits des femmes, Najat Belkacem, qui par ailleurs est porte-parole du gouvernement, le message politique est très fort. Il remet, un, la question des femmes, et la question du droit des femmes et de la place des femmes dans la société au cœur du sujet, et d'autre part, redonne à la question sexuelle et à la notion de genre une place sociale et politique, alors qu'elle avait été gommée par la droite. On ne parlait pas de sexe et on ne parlait pas de genre et on disait c'est un problème familial. Non, ça n'est pas un problème familial. Dans certaines familles, ça se résout facilement. Dans d'autres familles, c'est plus difficile. Le rapport du sexe et de la parole est un rapport éminemment politique.
Donc c'est une décision politique, vous l'avez dit. Plus généralement, est-ce qu'aujourd'hui, au bout d'un certain nombre d'années de parcours politique, vous sentez encore le poids de l'hétéronorme, la domination masculine dans le monde politique ?
Oui, mais je crois que ça n'a rien à voir avec l'éducation à l'école, hein. Oui, bien sûr.
Non,
c'est... D'ailleurs, je vais vous le dire. Là, je trouve... Bon, LGBT, par exemple, c'est très sympa. Hein.
Oui.
Ça donne l'impression que la question sexuelle est réglée. Non. Parce que je crois que, par exemple, les lesbiennes et les gays, c'est des communautés qui n'ont pas forcément vocation à vivre ensemble.
Non, mais déjà, communauté...
Voilà. Enfin,
voilà.
Nous
oui,
aussi,
bah,
c'est
le
vrai
mot
c'est...
communauté, et je suis d'accord avec vous, j'aurais mieux fait pas l'utiliser. Mais c'est... Voilà, les lesbiennes, c'est des lesbiennes, les homos, c'est des homos, quoi. Les gays, c'est des gays.
Mm-hmm.
Et c'est, il faut l'admettre, il faut l'accepter. Je veux dire, la sexualité de chacun, elle lui est propre. Elle est une question politique et sociale, mais elle lui est propre. Et de faire un paquet complet en disant, eh ben là, on voit la domination des hommes, et notamment, excusez-moi, messieurs, des homos.
Vous trouvez ?
Oui.
Ben, c'est une domination parce qu'elle est, comment on va dire, parce que les hommes sont les plus visibles, mais les lesbiennes ne sont...
Je te remercie.
Venez de le dire.
Non, mais ce sont les plus visibles, ce sont ceux qu'on montre le plus, mais les lesbiennes sont là et sont quand même actives, et elles sont hyper importantes justement dans le militantisme. Très souvent, les hommes, on les retrouve plutôt dans les... Je caricature totalement.
Oui, enfin, caricaturer, je ne sais pas, simplifier effectivement. Ouais.
C'est-à-dire, on les retrouve un peu moins dans le militantisme, mais les lesbiennes sont beaucoup plus actives dans le côté militant.
En proportion,
mais on les voit moins.
On les voit moins.
Oui, mais là, c'est le côté médiatique qui montre
Et là, on oublie bien sûr les trans, parce que dans LGBT, il y a trans, c'est encore autre chose, et les bi, c'est encore autre chose.
Et c'est encore autre chose. Et c'est pour ça que je crois que l'amalgame LGBT, bon, ça fait partie des courants de société. Hein, donc,
il faut le voir comme ça aussi.
Il faut le voir comme ça, et c'est un espace de temps. Mais ça n'est qu'un espace de temps. Et c'est bien qu'il y ait une affirmation politique, parce que c'est devenu aussi une affirmation politique, et c'est bien en soi, hein, parce que ça met la question du genre dans l'espace politique de manière claire. Hein. Mais pour autant, c'est pas, y a pas ceux qui ont une hétérosexualité banale, sous-entendu normale, et ceux qui ont une sexualité hétérodoxe.
On est bien d'accord hein, ici, effectivement, il n'y a
oui,
pas
mais
de
voilà,
souci
moi
là-dessus.
Je vous dis que je suis d'accord avec vous, d'une certaine manière.
Alors tout va bien. On fait une brève pause musicale et on revient pour parler d'un autre sujet, à mon avis, qui fait matière à débattre.
Bien. All coming back to me today, all of the bait. The data female wants me to stay, I should obey. My father told me go for the pay.
Go for the pay, oh no.
But God knows I just want to escape all of the way.
Parmi les questions qui titillent et dont on a déjà parlé ici, mais on aimerait bien vous entendre à ce sujet, il y a la question de la prostitution, ou les questions autour de la prostitution, parce que effectivement le thème est vaste. Avant toute chose, pareil, un son.
Une icône locale.
Voilà, une icône, enfin pas très locale, mais en tous les cas, enfin locale
en
tous les cas
pour
nous. Je vous dis rien, vous allez me dire simplement si vous la reconnaissez. On l'écoute.
Il y a des hommes qui sont terriblement blessés dans les clients. Il ne faut pas croire qu'ils vont là pour le plaisir. En réalité, ils y vont presque comme à la mort. Pour eux, c'est presque une souffrance d'aller faire l'amour. Ils n'ont même pas d'autre moyen d'aller faire l'amour qu'en payant. Et ça les fait doublement souffrir, ça les humilie encore davantage, quoi. Il faut comprendre ça. Moi, je ne sais pas. Moi, il me semble que plus on vit, plus on doit s'élargir, plus on doit comprendre que... Il y a des problèmes et qu'en fait, il n'y a pas de véritable criminalité, il n'y a que des souffrances. Si on arrive à comprendre ces souffrances et puis à les soulager tant soit peu, ben, le monde va mieux, hein, franchement. Tant du côté des femmes que du côté des hommes.
Alors, ce n'est pas forcément évident, je ne sais pas si vous l'avez reconnu, c'est l'extrait d'un film qui s'appelle Prostitution, qui date du milieu des années 70. Vous n'avez pas reconnu l'accent
non, pas
suisse un petit peu ? Griselidis Réal.
Ah oui.
Ça vous parle ?
Oui, oui, ça me parle. Oui.
Oui.
Pas énormément, mais ça me parle, oui.
Alors, c'est quelqu'un que nous, on a découvert relativement récemment, plus par son travail, on va dire, d'auteur, hein, puisqu'elle a écrit aussi sur ses expériences, sa vie, et une expérience de la prostitution qui est assez dure, assez radicale, comme beaucoup sans doute, mais avec à un moment une distance, puisqu'elle a réussi à s'extraire de ça, à écrire sur ses expériences, et à aussi devenir dans une seconde vie de pute, hein, comme elle le dit très clairement, mais qui a pris une forme de militantisme. Voilà, on l'entend un peu dans ses propos, une dimension humaine très très forte. Alors après, effectivement, ça peut générer un certain nombre de réactions, notamment par rapport au débat qui est porté aujourd'hui sur la prostitution. Pour, contre, une façon très très tranchée parfois d'approcher cette question-là. Comment vous vous positionnez, vous, par rapport à cette thématique-là ?
Cette femme est une femme qui est une femme forte, qu'on le veuille ou non. Et cette vie qu'elle a eue et qu'elle a, cette affirmation, le fait qu'elle devienne une femme de revendication par rapport à ça, j'ai beaucoup d'admiration pour elle. Pour autant, la plupart des prostituées sont des prostitutions subies. C'est la prostitution subie. Et marchande pour d'autres, pour le compte d'autres. Des julots, comme on disait au XIXe siècle, et des macs, tout simplement. Et maintenant, il y a une marchandisation du vivant qui est colossale, et le corps des femmes est une marchandise. Et on importe en masse des Africaines, des Noires, des Europe de l'Est, blondes, et on en fait, on leur pique leur passeport, et on en fait des choses qu'on met sur le pavé, dans le froid, le vent, l'humidité, et que certaines femmes réussissent, parce qu'elles ont une force personnelle colossale, à devenir maîtresses d'elles-mêmes, maîtresses de leur corps, et à être leur propre vendeuse. Bon, je peux l'entendre, mais ça n'est pas une raison pour considérer, je ne pense pas que ce soit une raison pour considérer que ça puisse être un avenir pour quiconque, que ce soit pour les gigolos ou pour les putes. Et je suis fondamentalement, profondément contre la prostitution. Et je ne trouve pas que la solution allemande, avec les maisons closes officielles, dont je ne me souviens plus le nom, soit une solution non plus. Je ne pense pas non plus. Il y a un très beau film qui parle de ça, qui s'appelle Paris-Texas. Qui a quelques heures de vol aussi, mais qui reste quand même une référence.
Décidément, le cinéma des années 70. Hein.
Oui, mais il était politique,
ah,
il
oui,
était
sexué
et politique, c'était clair.
Oui.
Et on ne sait plus le faire. Mm-hmm. On est ou dans la compassion ou la revendication, mais maigre. Ils sont tous beaux dans les films.
Alors, je
ne
sais pas si on ne sait plus le faire ou si on n'est plus autorisé à le faire. Hein,
oui, c'est ça. La question est là. Et dans Paris, Texas, mine de rien, on la voit, cette jeune fille qui est pute dans un... c'est le gagne-pain, quoi, mais le gagne-pain officiel, très simple. Elle n'est pas heureuse. Vous allez me dire qu'il y a plein de femmes pas heureuses. Oui, dont tact. Mais c'est leur choix de leur choix de vie n'est pas la vente du corps. Et donc.
Mais après, au-delà de ça, ce qui est dit par Griselidis dans l'extrait qu'on a entendu, il y a de la souffrance derrière. Alors, est-ce qu'à un moment...
Oui, la souffrance des hommes, et qu'il y a beaucoup d'hommes seuls, et de toute façon, la vraie question, c'est la sexualité est une aventure personnelle, et la sexualité est une aventure personnelle que la société doit prendre en compte. Mm-hmm. Est-ce que c'est par la vente du corps d'une femme à des hommes souffrants ? Non. Voilà, ma réponse est non. Et il y a peut-être un travail de fond à faire. On est dans une époque, 21e siècle, où grosso modo, on est nourri, on mange... on est logé, on a le chauffage, l'électricité et l'eau, à peu près partout. Hein. Parfois c'est un peu cher, mais et même le téléphone. Mais et d'ailleurs, enfin bon, bref, c'est la terra incognita, l'espace de dans lequel l'espèce humaine, nous, hein, l'être pensant qu'est l'homme, l'homo sapiens sapiens, le nouvel espace d'investigation, c'est l'intimité et le mental. C'est-à-dire le nouvel espace c'est la souffrance intellectuelle et morale, c'est la souffrance intime, ou le bonheur intime, c'est le nouvel espace politique. Et le corps n'en est pas exempt.
C'est là où il y a des choses encore à conquérir et
à construire.
À construire et le politique, là encore une fois,
doit
a
son
un rôle
à jouer et à la fois poser des bornes et ouvrir les règles.
Alors moi aussi, je voudrais reposer des bornes parce que j'en ai assez que ce soit confondu les questions du travail sexuel et de la traite des personnes. Pour moi, ce ne sont pas les mêmes problématiques et le traitement législatif, coercitif et ce qu'on voudra, je trouve que c'est un raccourci abolitionniste pour utiliser un autre vocabulaire.
C'est une jolie formule.
J'ai assez d'entendre ça parce que c'est vraiment réducteur. C'est une façon de culpabiliser, c'est une façon de... Donc non, pour moi, c'est très... Combattre la traite des personnes... Les rétentions de passeport, l'esclavage des personnes dans certaines conditions, quel que soit le métier qu'on leur fait faire après, hein, que ce soit dans la confection ou le travail sexuel, je m'en fiche, mais il s'agit là de traite de personnes, d'enlèvement, de rap, de ce qu'on veut. Pour moi, cette problématique-là est différente de la question du travail sexuel. Et
pour moi, elle ne l'est pas.
Et ben pour moi, elle l'est, et c'est pour ça que je regarde les choses très différemment.
Nous avons une divergence.
Voilà, c'est le lieu, même si nous passons aussi sur Radio Pays des Hauts. Mais voilà, pour moi, j'avais besoin que ce soit dit, voilà, que ça puisse être entendu aussi. De la même façon, il ne s'agit pas de vendre soi-même une partie de son corps. Il s'agit d'offrir un service.
Ben c'est pareil.
Non, parce que si on se passe de ce point de vue-là, il y a plein de gens qui travaillent avec leur corps, qui prennent des risques vitaux avec leur corps, par leur travail, et on n'en est pas choqué.
On en est de plus en plus choqué.
Est-ce qu'on est choqué par un trapéziste qui travaille avec ou sans filet ?
Il n'a pas le droit de travailler sans filet, c'est une décision de justice, c'est une décision légiférée. Il n'y a plus de travail d'acrobatie sans filet en France.
Eh bien, les travailleuses du sexe sont contentes de travailler avec préservatif.
Sauf que souvent, elles ne le mettent pas parce que le client ne veut plus, ou ne veut pas. Elles ont le droit de refuser le client. Elles se font donc harakiri de 100 à 450 euros. C'est un fait.
Bon, le débat est passionnant, hein, parce qu'effectivement, là, c'est deux conceptions qui s'opposent. On a deux minutes là-dessus.
On ne devait pas parler de gestation pour autrui.
Si, si, on peut parler. Moi, je voudrais parler d'accouchement sous X et de procréation pour autrui, effectivement, oui.
Eh ben, éventuellement, on peut remettre ça à la quatrième émission parce que là, on va pas le faire en deux minutes. On a combien de temps il reste là, Tao, pour finir ?
Une minute.
Donc ça, on va pas engager ce débat-là. Par contre, rapidement, est-ce qu'au cours de votre parcours politique, il y a des conceptions qui ont évolué pour vous, c'est-à-dire des positions de principe qui ont pu être mises à mal par des expériences, des rencontres, etc., et qui vous ont fait bouger sur certaines questions ?
Oui, mais pas récemment.
D'accord.
Moi, par exemple, je suis arrivée ma vie personnelle sur le plan sexuel. J'ai démarré avec une imprégnation familiale très forte. C'est quand même que, en matière de sexe, l'homme était décideur.
Mmh. D'où ces conceptions très, très arrêtées sur ce type de questions-là, par exemple.
Non, pas du tout.
Non,
non, mais j'ai très vite appris que non.
Okay.
Qu'il n'était pas décideur. C'était moi. Mais je suis arrivée dans ma propre sexualité avec ça.
Mmh.
Et j'ai très vite ni compris ni décidé que non. Mais parce que j'ai eu aussi la chance ou le bon goût de choisir des hommes d'avoir des aventures sexuelles avec des hommes qui étaient respectueux et attentifs.
Mmh.
C'est important. Et ça vous apprend aussi à ne pas seulement attendre, mais à être actif dans la relation.
On se retrouve la semaine prochaine, Anne-Yvonne.
Volontiers, on a été loin, là.